Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Bonjean. Et cette semaine, comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver pour notre podcast qui traite de l'actualité business du jeu vidéo, l'envers du décor, tout ce qui se passe côté jeu vidéo qu'on ne voit pas forcément. Et je ne suis pas tout seul. Hein. On a, comme je disais, un peu la rentrée 2023, on a essayé de faire évoluer un peu la formule du podcast. J'avais la semaine dernière Alexandre qui était avec moi pour, comme chroniqueur pour présenter le podcast. Et cette semaine, j'ai Aurélien qui m'aide aussi. Salut Aurélien.
Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes installés confortablement et que vous avez à boire, parce que c'est important de s'hydrater, il fait supra chaud.
Exactement, et c'est pour ça que j'ai pris un café, tu vois, pour rafraîchir.
Exactement, très rafraîchissant le chaud, bien sûr, n'hésitez pas.
Hein. Non, moi, je suis...
Mangez des raclettes, buvez du café, n'hésitez pas, hein. c'est le bon moment.
Alors Aurélien Montero, tu es compositeur de musique et créateur de contenu dans le jeu vidéo, c'est ça hein,
c'est si ça, exactement.
Voilà,
exactement,
j'ai bien retenu.
Je compose des musiques. Ah, t'as retenu le script, t'as retenu ma description, c'est très simple.
Exactement, ok.
Non mais compositeur dans le jeu vidéo, je fais des musiques, c'est moi qui fais les trucs que vous entendez à longueur de journée et je crée également des vidéos pour parler un peu de musique et de sound design un peu dans le jeu vidéo. Sur YouTube, parce que je trouve qu'en en tout cas, en contenu francophone, on n'en a pas tant que ça.
Ah, mais clairement, c'est assez rare.
Ouais. Tiens. Ouais. Je me dis, okay. Tiens, go.
Ouais, c'est cool. Ouais. Bah, écoute, c'est top. En tout cas, je remercie encore d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi les premiers chroniqueurs de ce podcast. Hein. Donc, même si le podcast a quelques années maintenant, mais je n'ai pas eu beaucoup de chroniqueurs. Et c'est juste toujours eu des invités qui parlaient, tu vois, plus des projets et tout. Et là, on voulait vraiment lancer cette nouvelle formule avec des gens qui viennent plus me challenger, me contredire et pas forcément tu vois, dire oui à tout ce que je dis.
Donc, je me plaque les cheveux en arrière et je crierai mon meilleure objection à tout moment,
j'attends
de
ça
manière
toi.
Aléatoire.
Alors, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, mon cher Aurélien, je dis toujours à notre l'auditeur, à tous ceux qui écoutent hein, de ce podcast, d'aller mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça, c'est super important. Et j'ai vu, en fait, je n'ai jamais été voir sur Spotify, hein, parce que je le dis à chaque épisode, toutes les semaines, je rabâche qu'il faut mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et je n'ai jamais été voir combien il y avait de notes, en fait. Je suis allé voir tout à l'heure. Et il y a des gens qui ont effectivement noté. Je vous remercie énormément hein, sur Spotify. Entre autres, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles notes qui étaient apparues sur Apple Podcast aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Et continuez à mettre 5 étoiles. Ça permet beaucoup. Ça permet au podcast en fait d'être visible, tout simplement, de le faire remonter dans les classements. Voilà, c'est génial. Ça fait découvrir à tout le monde le podcast. Et je vous remercie. C'est top. Eh bien, écoute, sans plus tarder, on va attaquer la première news, Aurélien, si ça te va. On va parler de Steam. De Steam et tout le mystère qui entoure la visibilité de lancer un jeu sur Steam. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion de peut-être de collaborer, de travailler, de sortir un jeu sur Steam ou d'avoir des copains qui ont fait ou des connaissances.
De toute façon, oui, quand tu sors un jeu, moi qui travaille beaucoup dans le milieu du jeu indépendant, de toute façon, sortir un jeu sur Steam, si je ne sors pas sur Steam, je ne sais pas où tu le sors, de toute façon.
Oui,
mais,
tu peux.
Ouais. Mais ouais, donc là, clairement, sortir un jeu sur Steam, bon, déjà qu'avant, c'était déjà compliqué parce que déjà, il fallait passer la phase de Greenlight, où au final, qui au
ça
début...
Ça n'existe plus, sans... ça, c'est vrai.
Ça existait. De mon temps, il y avait le Greenlight et c'était la foire à la saucisse parce que vraiment, tu avais tout et n'importe quoi. Et au final, ce qui devait être une phase d'approbation par la communauté s'est transformé en une sorte de guéguerre à partager son jeu un maximum pour le faire greenlighter le plus rapidement. Et on se trouvait avec des jeux absolument catastrophiques qui se trouvaient sur Steam alors qu'ils ne devraient pas.
Et du coup,
système, quoi.
Et du coup, là, le nouveau fonctionnement de Steam, c'est que tu payes, c'est ça, pour publier, c'est tout. Ouais, t'as plus...
ouais, je sais plus la somme exacte, mais ouais, tu payes une première fois, enfin, tu payes une fois et ton jeu est sur la plateforme. Ce qui, en gros, force les gens à un minimum de sérieux dans.
D'investir un peu.
Parce que après la somme est pas très grosse hein, mais c'est une sorte
de garde-fou pour éviter
de péage.
Oui, de péage, de filtre. Mais un peu comme ce qu'avait fait Apple à l'époque, enfin, il fait toujours d'ailleurs, Apple, je veux dire à l'époque, mais non, mais c'est vrai, il faut toujours que tu payes tes $100 par an pour pouvoir publier des jeux sur l'App Store.
Mais non, c'est smart et ça marche bien hein, parce que
ça permet d'éliminer un peu.
C'est plus sain et du coup les utilisateurs qui vont sur l'application sont beaucoup plus responsables et engagés en fait.
Ouais.
De ce qu'on a pu voir.
Non, mais c'est vrai. Et par contre, ce qui se passe, c'est que, bon, avec ce système-là, n'importe qui peut aussi sortir leur jeu. Et il y a un. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de jeux qui sortent, même si c'est payant. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont disponibles. Et un gros problème quand des devs indés ou moins, même si c'était même pas trop indé, même si c'était un gros, encore quand t'es un gros, tu fais du marketing, etc. Tu veux dire, si tu fais un triple A, un blockbuster, t'as une équipe marketing, tu fais de la com, t'as un budget et tout, c'est différent. Mais quand t'es indé, que t'as très peu de moyens, tu t'auto-publies, c'est un peu la galère pour se faire voir, quoi. La visibilité de ton jeu sur Steam, c'est l'enfer parce que en gros t'es en concurrence avec plein de
Ah
jeux et en
bah
plus t'as le
si.
malheur de sortir en plein milieu d'un Starfield par exemple, ben c'est personne te voit, quoi, c'est quasiment.
Ah bah surtout que bon maintenant c'est un peu plus le cas, mais il y a eu toute une phase où les gens pensaient que avoir un jeu bon suffisait pour que ça marche. Sauf que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. C'est quand tu sors un jeu, tu joues littéralement une partie de Où est Charlie? C'est-à-dire que ton jeu, c'est
Ah
Charlie et tu as une foule d'autres jeux qui sont là. Et c'est les consommateurs qui décident sur des critères extrêmement abstraits de ils voient le jeu ou ils voient un visuel et ils décident de cliquer dessus ou ils ont vu leur vidéaste préféré.
ouais, c'est ça, et c'est pour ça que beaucoup essaient de faire appel à des influenceurs, à des moyens pour se faire voir. Et par contre, il y avait quand même quelques mystères ou des, je sais pas, des bouts de couloir, comment on appelait ça, des préjugés sur la façon dont tu pouvais remonter dans les classements sur Steam. Ça me fait marrer parce que ça me fait penser vraiment à ce qui s'est passé il y a des années. C'est peut-être toujours le cas sur comment être dans la première page de Google pour les sites internet quand tu lances un
Bien
site.
sûr.
C'est comment tu te fais référencer pour être sur en première position. Il y a beaucoup de boîtes qui te vendaient un service qui était totalement bidon parce que, enfin, d'expérience, tu peux pas vendre une promesse de dire oui, tu me payes et je te mets premier sur Google, quoi. Enfin, oui, tu peux
Bien
faire ça,
sûr.
mais en payant des ads, oui, tu retrouves devant les publicités sur Google.
Mais c'est un cycle infini, hein. La plupart des gens n'aiment pas ne pas avoir de réponse fixe. Du coup, les gens cherchent des réponses, se collent à la réponse qui leur va le mieux. Et 6 mois, 1 an après, les règles ont complètement changé
Eh
et on
ben
se retrouve à devoir rejouer. Et c'est littéralement un jeu télé où les règles changent tous les 6 mois. Et tu dois
ouais.
constamment t'adapter. Alors qu'en réalité, parfois, des choses très simples suffisent juste pour se distinguer.
Bah,
Et
c'est ça.
aussi, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est que parfois, tu as des gens qui explosent en 6 mois et tu as des gens qui mettent 7, 8, 10, 20 ans pour vraiment, faire leur trou, quoi.
C'est sûr. Et du coup, là, Steam, en fait, a voulu un peu débunker tout ça, a voulu un peu démystifier ce que. Bah, c'est Valve, hein, qui est la société Valve,
Bah oui.
a fait une sortie, en fait, a même fait des slides. Il y a même une vidéo de présentation qui serait apparemment bientôt disponible. Il y a un diaporama de 71 pages qu'ils ont présenté lors de la DevCom qui s'est déroulée juste avant la Gamescom cette année. Ils l'ont présenté également au Game Industry Investment Summit lors du PAX. Et en fait, ils expliquent vraiment comment fonctionne leur algorithme et sur quels critères ils se basent pour mettre les jeux en avant, pour éviter que tout le monde se fasse des idées sur il faut faire ça, il faut faire ci, il faut absolument faire ça, et que bah, du coup, ils aillent payer peut-être des gens pour des services qui n'en valent pas le coup et qui se retrouvent déçus. Donc, ils ont été hyper transparents sur la visibilité. Et en gros, il y a un truc, ça, bon, je le savais un peu, mais j'étais pas totalement sûr, mais en fait, il n'y a aucun moyen de payer Steam pour de la pub, pour la mise en avant. En fait, tu peux pas, en tant que développeur indé ou développeur de jeu, dire bah voilà, Steam, prends mon argent, je te donne 100 000 dollars là pendant ce mois-ci et tu me mets tout le temps en tête d'affiche sur ta page, quoi. Et ça ne marche pas, en fait. Il n'y a aucun moyen de payer Steam pour faire ça. Contrairement, bah, tu vois, ce que tu pourrais faire sur Google pour payer, tu payes une pub, t'es mis en avant. Tu peux pareil sur Apple, hein, tu peux payer ce qu'ils appellent Apple Search Ads. Donc tu payes des mots-clés et quand les gens cherchent des mots-clés, bah, tu tombes sur ton app en premier, quoi. Et c'est un gros business pour les plateformes holders, donc comme Apple, Google, etc. Et Steam n'a pas fait ce choix-là. C'est assez surprenant. Alors, je sais pas si ça, comme tu disais, dans 6 mois, est-ce qu'ils vont le changer? On se dit, bon, bah, c'est quand même de l'argent en plus à prendre, on va mettre ça en place. Mais pour l'instant, il y a aucune solution de paiement pour la mise en avant sur Steam, en tout cas. Donc c'est.
En réalité, je pense pas qu'ils aient besoin de le faire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Valve est quand même l'entreprise de jeux vidéo la plus obscure volontairement du marché actuellement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas sur quoi ils travaillent. Et sortent des projets de manière complètement aléatoire. Et en plus, c'est une des seules entreprises à avoir c'est un vrai. Système de hiérarchie horizontale où il n'y a oui. personne qui est au-dessus de l'autre et chacun bosse sur les projets qu'ils veulent, ce qui est et assez
ouais, tu parles du Valve New Employer Handbook là, qui avait fuité un peu sur le net, où ouais, c'est le livret qui explique un peu quand tu es nouveau employé chez Valve, comment ça fonctionne avec les fameuses tables avec des roulettes où tu prends et tu déplaces de projet en projet. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai encore aujourd'hui.
C'est, vrai. C'est encore vrai. Il y a eu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça de quelqu'un qui avait récupéré des insiders, etc., sur des informations. Ouais. Alors, d'accord. C'est pas toujours tout rose, mais globalement, ça fonctionne. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais Valve rachète des studios, mais on ne le voit pas parce que c'est tellement... c'est pas forcément des gros studios, ouais. mais ils avaient racheté le studio qui avait fait Firewatch il y a quelques années.
Ah ouais ? C'est vrai ?
Ouais, ouais. Oui, ils ont racheté le studio, c'est Campo Santo, je crois qu'il s'appelle.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça, je crois. Ouais. Okay, ouais.
Et en fait, ils ont racheté le studio au moment où en fait, ils ont commencé à annoncer leur second jeu qui devait sortir, qui s'appelait In the Valley of Gods. Mm-hmm. Et en fait, le développement est suspendu depuis qu'ils ont été rachetés par, par Valve.
Parce qu'ils n'ont pas trouvé des tables à roulettes, c'est ça ?
Bah, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres projets plus intéressants et du coup, ils ont décidé de s'investir là-dedans. Est-ce que le projet... Personne n'a voulu s'investir là-dedans. On ne saura pas trop. On sait juste qu'ils ont été... ces ressources-là ont été rallyées sur Half-Life Alyx et sur Dota Underlords.
D'accord. Après, ce qui est juste ouf, je ne savais pas, parce qu'en fait, ça fait partie de Panic. C'est la société Panic qui a créé ça, non ? Enfin, je parle de ça parce que là, je fais juste une aparté sur ça. Panic, c'est ceux qui avaient lancé la petite console avec la manivelle, la Playdette. Hier soir, il y avait un apéro des développeurs de jeux vidéo là, sur Lyon, et il y avait une personne qui avait développé un jeu, et j'ai pu enfin tester un vrai jeu sur la Playdette physiquement, et c'était génial de voir à quel point la console est fluide, etc. Mais ok, je savais pas qu'ils rachetaient des studios comme ça, mais tu vois, enfin, ça c'est vraiment mon avis personnel, hein, donc je sais que des fois ça va faire un peu hurler les gens, ça va être un peu controversé ce que je veux dire, mais moi je suis absolument contre la flat hiérarchie, tu vois, la hiérarchie plate. Je suis un fervent défenseur de la dictature éclairée en entreprise. Je dis bien en milieu pro.
On
va parler de politique, mais parce que j'ai testé pas mal de fois cette fameuse flat hiérarchie là. En fait, ça, c'est les résultats, c'est exactement ce qui se passe chez Valve, où quand tu dis, en fait, on sait pas sur quoi ils travaillent, ils ont pas sorti de trucs depuis longtemps. En fait, c'est pas parce que ils travaillent sur quelque chose, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi il faut travailler. Quand tu tombes dans des extrêmes de flat hiérarchie où tu as un stagiaire qui est là pendant 2 jours, a le droit de dire et son opinion a autant de valeur que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui est expert. En fait, tu commences à rentrer dans des débats et des discussions interminables dans lesquelles tu peux pas sortir. En fait, tes projets n'avancent pas, quoi. Et donc, des choses qui pourraient aller très très vite parce que tu fais confiance à ton directeur artistique ou tu vois qui va poser une DA à ton lead tech, qui va vraiment mettre l'architecture du code qu'il faut. Et tu fais confiance et c'est lui qui chapeaute ça. Et derrière, tu as une vision créative qui marche bien. Les projets avancent à une vitesse, tu vois, faramineuse. Et donc, d'avoir testé les différents types de composition d'équipe, celle que je préfère, c'est vraiment cette dictature éclairée où, en fait, tu as une personne qui va décider, qui va avoir le dernier mot, mais qui va quand même écouter l'ensemble des gens. Et à la fin, c'est lui qui va décider. Il faut juste que tout le monde se plie. Et tu vois, même moi, je me disais, c'est pas grave, je suis pas forcément en phase avec ce que la personne va décider, mais il faut que le projet avance. Donc, on va avancer avec ça, quoi, parce que c'est lui qui a décidé. Il faut juste accepter. Et c'est compliqué, ces hiérarchies plates, parce que sur le papier, ça fait rêver, mais dans la pratique, ça peut tuer des boîtes. Ça peut tuer des projets, ça peut tuer des boîtes, quoi.
Moi, je pense que c'est une question d'échelle, en fait. Je pense que ça marche sur des groupes petits. Ça marche moins sur des groupes énormes, en fait. Parce que sur des petits groupes, tu vois, par exemple, si on réfléchit un petit peu, on va prendre un exemple un peu vraiment très minime, tu vois, dans le jeu vidéo, les game jams.
Oui.
Sur les game jams, toutes les voix ont à peu près ont le même poids.
Ouais.
Et il y a un peu une sorte de hiérarchie qui se met en place malgré eux, parce qu'il y a forcément des gens qui ont plus de leadership que d'autres.
Oui.
Ça n'empêche que chacun peut donner son opinion et avoir un avis sur tout.
Et puis les enjeux sont pas.
L'expertise.
Et
Voilà,
l'enjeu ne
parce
sont
que.
pas les mêmes, quoi, aussi. Donc, tu vois, quand j'ai
Parce
fait des
que.
jams ou la personne, bon, je n'étais pas forcément OK, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est une jam, vas-y, quoi.
Mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a aussi ce côté petit groupe, tu vois. Sur
Ouais.
des équipes plus restreintes, le fait d'avoir une hiérarchie plus horizontale, c'est moins problématique. Dès l'instant où on commence à avoir des groupes un peu plus grands,
C'est
le fait
l'enfer.
d'ad ça devient beaucoup plus compliqué parce que les prises de décision. En fait, une prise de décision est plus difficile à prendre s'il y a plus de trois personnes.
Ah,
Basiquement.
mais complètement. Non, non, mais
Parce qu'en
je suis
fait.
bien d'accord.
Voilà,
C'est
parce
sûr.
qu'en fait, à trois, il y a toujours quelqu'un pour couper la poire en deux, en fait. Quoi qu'il arrive,
Ah, le
on
fameux
peut.
nombre d'or, ça, c'est mon chiffre
Voilà.
préféré, c'est 3, tu vois.
Ah bah
C'est vraiment
je
le
suis né un
truc.
3 mars,
Ouais,
donc
tu
je ne peux pas je ne peux que être d'accord. Mais
vois. Et du coup, oui,
du
c'est
coup
pour ça
voilà.
que ouais, c'est genre, mais t'as tout à fait raison, ouais, sur cette.
Mais voilà, par exemple, pour Steam, pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas besoin de facturer des publicités parce qu'actuellement, à l'échelle qu'ils sont, je ne sais plus combien ils sont d'employés, mais ils ne sont pas si nombreux que ça chez Valve. Et ils sont 330. Ils ont des fonds propres et ils arrivent à générer de l'argent déjà avec le Steam Deck qui a été une réussite quand même plutôt conséquente et par la part qu'ils prennent sur toutes les transactions qui se passent sur leur plateforme.
Oui, non, mais clairement, ils ont des vaches à lait qui ils ont des systèmes qui leur permettent d'avoir du cash en continu et ils n'ont pas
Bah,
trop de soucis, hein, également.
ils sont les comment dire, ils sont dominants dans leur domaine. Il commence à y avoir quelques concurrents, mais ils sont beaucoup plus petits. Epic, même s'ils ont Fortnite, reste plus petit et
Oui,
moins
mais
ancré dans les habitudes que Steam.
alors de toi à moi, est-ce que tu lances des jeux sur Epic?
Fortnite.
Ouais, mais à part
Voilà, je lance Fortnite, je crois que j'ai lancé Hades, j'ai dû
Ah oui,
lancer.
tu l'as pas sur Steam.
Non, je ne l'ai pas sur Steam,
Ah, c'est bien.
mais je crois que je l'ai pris tard et c'est peut-être pour ça.
Je veux dire, avec un même jeu que tu as sur l'Epic Game Store ou Steam, tu vas lancer sur Steam, si tu l'as sur les deux plateformes.
Oui, non, c'est
Ouais.
clair. C'est clair que l'habitude, et puis même dans l'expérience utilisateur,
C'est ce que j'allais
l'interface de
dire, ouais.
Steam est plus facile à prendre en main que l'interface de Epic.
C'est
Là-dessus, ils ont
moins
du
lourd,
travail à faire.
ouais. Ouais, c'est clair.
Même l'interface, parce que moi j'ai aussi le Game Pass PC,
Ouais.
l'interface du Game Pass PC est plus intuitive que
Que
celle de
l'Epic Game
l'Epic Game
Store.
Store.
Ah, mais totalement, totalement. Non, mais c'est une
Donc.
horreur. Et puis la lourdeur, tu vois, du launcher de l'Epic Game Store, moi, ça me donne pas envie de cliquer sur l'icône pour le lancer, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup trop lourd par rapport à toutes les autres solutions de launcher. Bon, on digresse un petit peu,
Oui, un
fait un
petit
peu
peu.
digression, ouais. Mais en gros, ouais, pour revenir un peu sur la visibilité sur des jeux sur Steam et comment Valve a un peu clarifié ça. Donc, effectivement, c'est pas possible de payer publicité à Valve pour être mis en avant sur Steam. Et en fait, la recommandabilité, alors je sais pas si c'est vraiment un terme français, mais c'est
On va
ce que
dire que
j'ai
oui.
trouvé, oui, est basée en fait essentiellement sur les revenus générés par le jeu. Et en gros, il faut que les joueurs passent du temps sur votre jeu et que vous gagnez de l'argent avec votre jeu. Donc, c'est pas forcément acheter un jeu, parce que si vous sortez un free-to-play, ça peut marcher aussi si les gens achètent des achats intégrés. Par exemple, bon, il n'y a pas beaucoup d'autres. Enfin, je connais pas trop d'autres free-to-play que les jeux Valve sur Steam. Bah, si, je suis bête, il y a Genshin Impact, non? Genshin
Ouais,
Impact,
Genshin
Impact.
Impact. Alors,
Il y
il y
a.
a Summoners War Chronicles aussi qui est sorti assez
Ouais, voilà.
récemment.
Bon. Mais tu vois, je suis pas trop free-to-play sur PC à part Dota 2 et bah tiens, Overwatch, mais bon. Mais c'est vrai que du coup, il faut quand même que ton jeu, bah, il y a du temps de jeu qui soit passé par l'utilisateur et qu'il y ait de la dépense aussi faite, quoi. Donc, soit ils ont acheté le jeu, soit ils dépensent des jeux sur le free-to-play pour que bah, ce jeu soit recommandé à d'autres utilisateurs. Ça veut dire qu'en sorte, les gens sont engagés et sont prêts à payer. Donc, c'est aussi, ils sont pas bêtes, hein. Pourquoi ils font ça? C'est que bah, ça veut dire que si d'autres personnes voient ce jeu, ils sont prêts aussi à l'acheter. Et donc, ça fait plus de revenus aussi pour Steam, quoi, pour Valve. Donc, c'est tout bénéf. Alors, ils prennent pas trop de risques à mettre en avant des jeux qui ont zéro joueur, avec zéro temps de jeu et qui monétisent pas, quoi. Donc, voilà. Et aussi, l'autre truc qui était intéressant, c'est qu'en gros, des fois, les gens pensaient que Steam shadowbannait certains jeux en fonction. Je sais pas, de la chance ou je sais pas, de thématiques ou un truc qui plairait pas à Steam et qu'en gros il te shadowban et que du coup tu remonteras jamais en termes de visibilité. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ça n'existe pas, quoi. Après, c'est C'est l'explication de Valve. Donc, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Enfin, si on peut peut-être être un peu parano, dire bon, ça se trouve, il nous dit ça, mais c'est du bullshit. Il chasse un fan, etc. Mais
ah
j'ai
bah,
plutôt envie de croire.
Là-dessus, c'est t'inquiète, frère. Fais ma confiance.
Ouais, bah là, tu peux pas avoir parce que de toute façon, au moins, tu vois, tu disais que c'était un peu obscur, un peu opaque, Valve, sur leur fonctionnement, mais limite, c'est les seuls qui ont pris vraiment le temps d'expliquer comment fonctionne la visibilité sur le store, parce que tu vois, Apple, Google, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais dit comment, ou même Google, tu vois, sur le moteur de recherche, je suis jamais tombé sur un document de Google expliquant comment on peut être bien référencé, quoi.
Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est qu'en fait, Google a tout intérêt à ce que tu fasses des recherches, à savoir comment être le mieux référencé. Steam, tu ne peux pas faire des recherches là-dessus. Donc en fait, tu détournes les gens du sujet et Steam a plus tout intérêt à te donner les règles du jeu pour que tu sois plus rentable et que tu lui ramènes plus d'argent que de te laisser dans le côté opaque, sachant que de base, Steam était très opaque là-dessus parce que je pense qu'il s'en foutait un peu et il laissait un peu le truc couler. Maintenant qu'il y a d'autres concurrents, ils ont tous intérêt à te donner des règles du jeu pour que derrière, soit ils continuent à maintenir leur monopole plutôt que de prendre le risque que d'autres le fassent, te donnent plus de clés en main et que les développeurs aillent chez la concurrence, notamment sur des développeurs indés, parce que les développeurs indés étant plus fragiles, si Epic donne les règles en disant bah voilà, si vous faites ça, votre jeu sera mieux référencé, vous ferez plus de ventes, bah forcément ils vont peut-être y aller en fait.
Mais déjà qu'ils essaient d'attirer avec plein de mécanismes tous ces devs sur la plateforme.
Ah bah bien sûr.
Ils ont tout intérêt à essayer d'être vraiment transparent, la Valve, pour le coup. En tout cas, pas de notion de Shadowban. Et l'autre chose aussi intéressante dans cette présentation, c'est comment fonctionne la section nouveautés et tendances sur Steam. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est New and Trendy ou un truc comme ça, je pense. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, cette section-là, elle est vraiment spécifique à la région où vous êtes. Si vous êtes en France, vous n'allez pas avoir la même chose que si vous êtes en Allemagne, en Espagne, ou je ne sais pas si c'est au niveau Europe ou pays, mais en tout cas, c'est régionalisé et c'est aussi chronologique. Donc, il va forcément mettre en avant ce qui vient de sortir là plus récemment et aussi ce qui est proche de votre pays, quoi. Donc, ce qui est tendance dans votre pays. Donc, s'il y a beaucoup plus de joueurs. Je sais pas, je vais prendre comme exemple Starfield, mais c'est pas le bon exemple. Mais c'est le dernier jeu qui est sorti, parce que bon, Starfield est partout. Mais c'est un jeu indé qui a été fait, qui cartonne en Espagne, vous allez peut-être pas le voir en France, quoi. Donc, dans la section nouveautés et tendances. Donc, ça c'est important, ouais.
Mais ça, c'est quelque part un peu dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui est trendy dans les autres pays, tu vois, parce que ça peut. Moi qui suis un grand curieux. J'aime bien savoir ce qui se passe dans les autres pays, voir un peu quelles sont les nouvelles tendances. Et pas un truc tout bête. Souvent, moi, j'ai dans mes playlists Spotify en abonnement les top virales Japon.
Ouais.
Parce que comme on n'écoute complètement pas la même chose en Europe et au Japon, et ça me fait découvrir des artistes complètement obscurs. Et moi, je trouve ça trop cool. Et je me dis, il doit y avoir des jeux indés formidables dans d'autres pays, qui sont traînés dans d'autres pays et pas chez nous, que j'aimerais peut-être découvrir en fait.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça m'intéresse aussi de voir. Et puis, ça permet de faire un peu de veille sur ce qui se passe aussi ailleurs, quoi, tu vois.
Et puis en plus, même au-delà de ça, tu vois, le fait de le mettre par défaut sur la localisation, ta localisation normale, ok, très bien. Juste, mettez une option quelque part pour qu'on puisse checker par curiosité les trends dans d'autres pays. C'est tout. Ouais. Sur YouTube, tu peux le faire, par exemple.
Bah ouais, non, mais t'as raison. Après, il y a des outils qui permettent d'analyser un peu les marchés. Je sais pas à quel point t'as des. Tu vois, si t'as ce genre de filtre où tu peux voir les sections trendy, etc. Alors, tu vois, moi, je connais bien plus le milieu des App Store, des Google Play Store, et du coup, on était obligé de créer des comptes du pays pour voir les classements du pays, quoi. C'était assez lourd même du coup et puis certes, même des fois tu étais obligé de passer par des VPN ou même on a été dans un extrême cas où pour voir si t'es sorti ou si t'es en avant on a dû appeler des gens en Chine et tout pour voir qu'est-ce que tu vois sur ton téléphone en Chine quoi. Enfin bon, Chine c'est un cas à part mais c'est ou d'autres pays pour voir un peu ce qu'ils avaient parce qu'on n'était pas sûr que le VPN fonctionnait bien ou est-ce que c'était pris en compte et c'était mais c'est vrai que Il y a pas mal de stores qui font ça, où tout ce qui est un peu nouveauté, il y a des catégories qui sont vraiment très localisées et ça dépend vraiment des régions là où tu te connectes pour voir pour voir des choses différentes dans les différents pays. Mais c'est vrai que t'as raison, ça pourrait être pas mal voilà, surtout tu vois, sur la partie application. Souvent, par exemple, tu vois, Supercell et tout, ils faisaient des lancements de leurs jeux. Enfin, il y a beaucoup de gens qui faisaient les soft launch de leurs jeux sur mobile au Canada. Et donc, tout le monde avait, quand c'était une boîte de jeux mobiles, il fallait avoir un compte canadien App Store pour voir les jeux qui étaient sortis en avant-première pour les tester et voir faire un peu de veille concurrentielle de ce que faisaient les gros, quoi, comme Supercell et tout, vu qu'ils faisaient leur lancement là-bas en premier pour tester le marché. Donc, voilà, tu étais obligé d'avoir ce genre de compte. Donc, peut-être que sur Steam, il faudrait, je ne sais pas si juste avec un VPN tout bête, tu pourrais voir cette section un peu différemment entre chaque pays où tu
Est-ce que
étais
c'est pas lié
obligé.
au compte?
Je ne sais pas, c'est une bonne question, tu vois, mais c'est à tester, ouais, c'est intéressant. Ou prendre un billet d'avion et d'aller dans les autres pays pour voir. Ouais, mais tu veux dire, c'est lié au compte, ça ne changera pas le problème. Hein.
Bah
C'est
oui.
sûr. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils recommandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utiliser les balises, les tags sur Steam pour que la visibilité de votre jeu soit le plus optimale possible. Parce que si tu as les bonnes balises, les bons tags, ton jeu va remonter par rapport aux recherches que sont faites, par rapport aux différents jeux qui partagent les mêmes tags que toi. Donc Roguelite par exemple, si t'as un jeu Roguelite, tu as des chances que ça va remonter, et aussi de localiser ton jeu pour avoir un
Ça
maximum de
tombe bien
chances.
parce que les roguelikes n'a pas tant que ça, donc c'est vrai que c'est facile de
Peut-être
sortir du
pas le
lot
bon
dans cette niche-là,
c'est
quoi.
peut-être pas la bonne c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu vois, si tu veux Roguelite avec coop ou avec tu vois je sais pas moi des pizzas en Roguelite, ouais, tu veux peut-être, tu vois, c'est l'association des balises qui fait que du coup si t'as un peu les mêmes balises sur un jeu que tu consultes, tu auras des chances de ressortir sur ton jeu si tu partages un peu les mêmes balises, les tags, quoi.
Oui, non, mais effectivement, même quand on va sur des pages de produits, souvent il y a des recommandations liées à ce tag-là, etc. Donc c'est vrai que. Et puis même, Steam sait les jeux qu'on achète, les jeux qu'on consomme par les datas qu'on donne en fait. C'est-à-dire qu'ils savent combien d'heures on passe sur un jeu, donc ils savent si ça nous intéresse ou pas. Et du coup, ils nous recommandent des jeux par rapport à ça. Donc c'est vrai que si on tag bien un jeu, en théorie. Il est censé quand même rediriger vers la niche des gens qui seraient potentiellement intéressés par ton jeu, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et bon, en tout cas, c'est super intéressant. Je mettrai les slides en note de l'émission. Je vais les consulter, regarder un peu plus en détail ce que dit Steam et si ça peut vous aider à travailler sur la visibilité de votre jeu. Voilà, ça vous permet de vous faire une idée, de préparer peut-être votre stratégie de lancement de votre jeu sur Steam et d'améliorer la visibilité de votre jeu. Si ça peut vous aider, c'est super cool. Voilà, je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur ça, toi, de ton côté,
Non,
Aurélien.
non,
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 c'est
moi
bon.
c'est clair.
Ok, on passe à la news suivante. C'est un petit événement là qui va avoir lieu en décembre, qui est organisé, qui s'appelle Next Days of the Devs. Alors, je connaissais pas trop cet événement, donc j'ai découvert ça, qui est un événement organisé par Double Fine Production et I Am 8Byte. En fait, Double Fine Production, c'est Tim Schafer, hein, qui est derrière ça, et I Am 8Byte, je suis allé me renseigner, c'est des gens qui font tout ce qui est un peu, c'est une boîte qui fait des objets de collection, des goodies, des choses comme ça, donc des choses plus physiques. Et ils s'associent pour organiser cet événement qui c'est Days of the Devs, qui aura lieu le 6 décembre. En gros, il y a une petite section, pourquoi on en parle ici, parce qu'il y a une petite section jeux indépendants, en partenariat avec les Game Awards, qui sera diffusée en direct. Et du coup, il y a des candidatures là en ce moment jusqu'au 20 septembre. Vous pouvez soumettre votre jeu pour avoir une chance d'être sélectionné. Donc voilà, il faut juste que le jeu soit quand même jouable et avoir une date un peu de sortie, même si c'est pas hyper précis, vague, une sorte de troisième trimestre 2024, un truc comme ça. Bon, ça leur irait, quoi. Donc, mais il faut que le jeu soit quand même, qu'il y ait une version jouable quand même du jeu. Et donc voilà, si vous voulez faire un peu de promo, si vous êtes sur le point de sortir votre jeu, ça peut être intéressant de soumettre votre jeu et d'avoir peut-être une chance de pouvoir être sélectionné dans ce genre d'événement.
Et si en plus vous êtes sage, vous aurez peut-être Geoff Keighley qui vous fera un petit clin d'œil.
Alors ça serait le cerise sur le gâteau. Je sais pas si ce serait possible. Toi, tu connaissais cet événement, non, le Next Days of the Devs, ou non, tu avais.
Absolument pas. Après, moi, j'avoue, Je ne me renseigne pas forcément sur tous les events développeurs qui existent.
Ouais.
Parce qu'il y en a quand même, mine de rien, il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai tendance à plutôt me concentrer sur les grands cadors. C'est-à-dire, en France, on a le Addon Game Camp. À l'étranger, ça va plutôt être la GDC, la PAX, la Gamescom, etc. En fait. C'est
D'accord.
vrai que j'ai tendance à me focaliser sur ces events-là. Et si l'event, je vois qu'il prend de l'influence, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que Day of the Devs, de ce que je vois, ça se passe à Los Angeles.
Ouais, mais après il y a un stream quand même, tu vois, c'est pas que le
Oui,
truc
oui.
que
Mais si certaines personnes veulent y aller physiquement pour faire du réseau ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que si dans la même année, tu as fait la GDC, qui se passe au même endroit, bah, ça te revient très vite un peu cher.
Ah bah
Donc
oui,
c'est
c'est
vrai
sûr que si
que.
t'es en dehors des US, c'est compliqué quoi. Enfin, en tout
Voilà.
cas, depuis que l'event a été lancé, je crois, ils ont lancé le truc depuis 2012, tu vois, mais j'ai jamais entendu parler. Et ils ont déjà présenté plus de 500 jeux, et que ce soit online ou en présentiel, donc il y a plus de 500 jeux ils sont déjà passés par cet event. Donc voilà, si vous voulez, c'est toujours bien de tenter, même si si c'est négatif, vous n'êtes pas pris, ça permet. Là, bon, j'ai pas l'impression qu'il faut payer quoi que ce soit. C'est quand même pas mal, parce que moi j'avais testé par exemple l'Indiecade, il faut quand même payer même si t'es pas pris, tu vois.
Ouais,
Donc
tout
tu
à fait.
soumets, t'avais des chances de pas être pris, mais t'as payé quand même. Donc j'étais
Après,
un
je crois
peu
que
deck, tu
l'Indiecade, c'est 70 euros, un truc comme ça, je crois.
vois.
Donc,
Ouais, c'était un peu
c'est
plus quand même.
un peu plus que ça? Ok.
Ouais, ça a été plus tôt dans les centaines d'euros.
Très bien.
Et je pensais, mais non, mais qu'ils allaient, je sais pas, tu vois, rembourser, ou que t'avais toutes tes chances d'être pris, mais absolument pas, quoi. Donc on avait pas été pris, on a quand même payé. Bon, après je suis pas allé, il me dit, ah, vous pouvez quand même venir voir, tester les autres jeux des 20D et tout. Je dis, ouais, c'est pas, je vais faire le déplacement juste pour visiter le salon, si tu exposes pas, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, ça c'est plutôt cool. Postuler, postuler. Et sinon, un peu dans le genre event, je vais un peu changer l'ordre des news, hein. Je fais ça un peu à la vite, parce que je trouve que ça va bien ensemble. Il y a aussi un event en France cette fois-ci, qui est le festival étudiant du jeu, Play Sorbonne Festival. Non, c'est ça, Play Sorbonne Festival,
Oui, c'est ça.
qui aura lieu le 16 septembre 2023. Donc c'est pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, que c'est bientôt, qui est toi, ça tu connaissais pour le coup, tu me disais que tu avais
Ouais, j'avais vu des messages sur des Discords de développeurs passés. Donc,
ouais.
apparemment, ça va. Il va y avoir quand même pas mal de monde, hein.
Alors, je connais pas non plus ce festival, tu vois, mais c'est étudiant, donc c'est pour ça que je pense que j'ai jamais vu peut-être passer dans mes fils. Mais c'est un festival étudiant du jeu. Je me dis, bon, c'est vraiment orienté peut-être. Du coup, est-ce qu'il y aura des pros et tout? Je suis pas sûr. Il y a quand même des invités, hein, dedans. Il y aura Fibre Tigre, Ken Bogard. Voilà, après les autres, je connais peut-être un peu moins. Clément Viktorovitch, Maya
Oui,
Mazaret
ok.
et Lydia. Il y aura des conférences, il y aura des intervenants, il y aura des professionnels, apparemment. Bah si, je sais, pas des professionnels, mais il y aura des professionnels quand même du secteur, avec des tournois, etc. Et il y aura des expositions sur le jeu vidéo. Donc je pense que il y aura aussi des développeurs indépendants qui présenteront leurs jeux. Donc ça vaut le coup aussi. Alors je pense que pour être exposant, c'est peut-être un peu trop tard, vu que le salon est la semaine prochaine, mais ça vaut le coup d'aller faire un petit tour si vous êtes sur Paris. Ouais, vous pouvez aller, je pense, faire un petit saut et voir un peu ce qui se passe sur cet event qui a lieu le 16 septembre. Je sais pas si tu vas, toi, non, tu n'as pas prévu d'aller sur.
Non, j'aurai pas le temps. Je pense
Ouais.
que mon mois de septembre est trop blindé pour que je puisse
Pas de.
daigner sortir de ma grotte. À mon avis, c'est mort. Hein.
Ouais, moi je bouge plus jusqu'à la fin de l'année, hein. Depuis la Gamescom,
Et il fait trop chaud, il fait trop chaud.
c'est ça.
Je reste chez moi.
Tu m'étonnes. Autre news, sur en fait, la semaine dernière, j'avais évoqué, pendant le dernier podcast, l'arrêt du Visual Studio Mac par Microsoft, l'arrêt du support. Donc en fait, ils vont l'année prochaine, en 2024, Microsoft, pour rappel, arrête l'IDE, hein, donc l'interface de développement de Visual Studio pour Mac. La version PC continue, un PC Windows est toujours maintenu et est super bien, il continue à développer, mais la version Mac, il le laisse complètement de côté. En fait, c'était vraiment deux versions qui n'avaient rien à voir, l'un et l'autre. On peut toujours faire du code avec, mais c'était juste deux versions complètement différentes entre les versions Mac et Windows. Donc là, ils ont complètement arrêté la version Mac. Et donc, ça crée un petit vent de panique. J'ai vu passer sur Twitter, sur des forums, des machins, où les gens se posaient la question, mais comment on va faire? Nous, on est sur Mac, on développe avec Unity, et Unity, effectivement, fournit à l'installation l'option d'installer Visual Studio Mac pour les gens qui sont sur Mac, et comme IDE, quoi, par, un peu par défaut. Moi, depuis le début, j'ai jamais trop aimé ça, donc j'utilisais Visual Studio Code, donc j'étais pas trop impacté, et récemment je me suis dit, bon allez, je vais essayer quand même Visual Studio Mac parce que ça a l'air un peu complet et tout ça, donc cool, juste quand je commence à commencer à l'adopter, Microsoft décide de l'arrêter, donc je me suis dit, bon, il va falloir que je repasse en arrière. Et, et Alexandre, que j'avais eu la semaine dernière dans le podcast, nous avait parlé de l'alternative qui s'appelle Rider de JetBrains, et cette semaine je suis tombé sur un article justement où Microsoft avec l'aide, je pense, de Unity et Microsoft en parallèle, je pense qu'ils ont dû travailler ensemble, ont décidé de proposer un remplacement du Visual Studio pour Mac et ce qu'ils appellent le C-Sharp Dev Kit. Et en gros, ça permet d'ajouter une sorte d'extension Unity pour Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est vraiment l'éditeur hyper léger, hyper light, en sorte de Atom ou Sublime Text pour les anciens qui utilisent ça. C'est vraiment un éditeur de texte très basique, hein. Il y a juste une fenêtre avec du code, mais moi j'adore ça parce que du coup c'est super rapide et c'est la même expérience sur toutes les plateformes, sur Windows, sur Mac, sur Linux. Et ils ont lancé une extension, un plugin Unity qui prend en charge justement ce dev kit C-Sharp et qui permet de, bah, d'être hyper complet et d'apporter un peu la même, les mêmes fonctionnalités qu'avait le Visual Studio, Visual Studio Mac pour les développeurs sur Unity, quoi. Et je pense que, alors peut-être je m'avance un peu, mais 90% des gens qui utilisaient Visual Studio sur Mac, c'était pour Unity, parce que les autres, sûrement qu'ils ne l'utilisaient pas, ou ils étaient sur Windows, parce que vu que tu ne pouvais pas faire grand-chose d'autre avec, peut-être du web, et même si quand tu faisais du web, il valait mieux utiliser Visual Studio Code, parce que t'avais, enfin, les, je vais dire, les vrais développeurs étaient en ligne de commande, donc tu ne t'embêtais pas avec le gros IDE hyper lourd sur Mac. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin ici, Unity, de dire, ok, on va rassurer les développeurs Mac, pour ça. Donc voilà, c'est ça vous permet de d'être je pense ça rassure quand même l'ensemble des, voilà, des développeurs, la communauté développeur de sur Mac, de Unity. Donc je pense qu'il y a quand même un bon paquet qui sont quand même dans ce cas-là, notamment bah tout ce qui est mobile et tout, enfin voilà, c'est on utilise Unity et ils sont souvent sur Mac, quoi, ils sont pas sur Windows.
Même toute la sphère des gens qui travaillent dans l'audio, il y en a beaucoup qui sont sur Mac, hein. On s'en rend pas compte, hein, mais moi je suis sur PC, donc c'est pas le souci, mais il y a beaucoup de compositeurs de base qui travaillent sur Mac pour des raisons d'optimisation et de simplicité. Il y a quelques fonctions qui font que sur Mac c'est quand même intéressant, enfin c'est quand même intéressant de faire de l'audio sur Mac. Et du coup bon, jusqu'à il y a je pense quelques années, c'était compliqué parce que du coup, il y avait beaucoup de logiciels qui n'étaient pas trop compatibles avec Mac, ou alors qui avaient des petits soucis, genre des logiciels qui ne marchaient pas tout à fait parfaitement de la même manière, des petits problèmes de compatibilité. Du coup, ça te forçait souvent à avoir un dual boot où tu avais du coup ton Mac et ton PC, parce que sinon, c'était impossible de faire les deux. Maintenant, on arrive enfin à avoir un niveau égal entre PC et Mac, on va dire, sur la partie voilà, accès à Unity, accès à des outils comme Wise. Et c'est vrai que s'ils avaient commencé à dire « Ah ben en fait, non », ça aurait été un peu embêtant. Et surtout que bah, y en a beaucoup qui ont investi, surtout que bon, un Mac, ça coûte quand même cher. Je pense que ça ferait un peu suer pas mal de gens de se dire « Bon, bah, j'ai dépensé 4000 balles dans un Mac pour au final devoir repasser sur un PC parce qu'on me l'impose. » Mais c'est vrai que Visual Studio, c'est vachement bien, mais ça pose des soucis où je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps où, par exemple, dans mes programmes, j'ai genre 10 ou 15 versions de Visual Studio que je ne peux pas désinstaller parce que c'est utilisé quelque part et je ne sais pas quoi.
Ah, sur Windows, tu parles, c'est oui, ça c'est Microsoft qui aime bien mettre ses petits un peu partout pour pas les perdre. Donc
Mais ça serait quand même bien qu'un jour ils se disent tiens, et si on centralisait tout dans un Microsoft Studio ou quand ça fait une mise à jour, c'est quand même compatible avec la version d'en dessous, parce que c'est vrai que ça provoque des énormes galères où, bah, en fait, si ton, si tel jeu utilise telle version de Visual Studio, t'as intérêt à l'avoir. Sinon, bah, si tu supprimes, bah, t'auras un truc qui marchera plus.
C'est vrai, non, mais ça occupe vite de la place et oui. Tu te dis, mais pourquoi c'est là? Moi, j'ai jamais installé ça. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est du coup le nouveau dev kit, là, ce qu'ils appelaient le C-Sharp Dev Toolkit, est gratuit déjà. Ça, c'est bien. Et,
ouais, déjà, c'est
un
bon début.
Ça, c'est cool. Et en fait, ça t'offre une expérience un peu seamless, enfin, vraiment identique, quel que soit ton OS. Que ce soit sur Mac ou Windows, parce que là on parle de Mac, mais en fait si tu veux le faire aussi sur Windows, tu peux te passer de Visual Studio, le gros Visual Studio, et utiliser que Visual Studio Code aussi sur Windows avec ce dev kit qui donne vraiment une super expérience. Par exemple, il apporte vraiment un débugger plus avancé avec un analyseur de code, une partie refactorisation aussi. Tu peux faire du refacto sur ton code Unity avec tes projets Unity en langage C-Sharp et tout. Donc ça apporte quand même un confort d'utilisation, peut-être pas aussi proche qu'un Visual Studio complet, mais qui répond grandement en partie des besoins au quotidien des devs que ce soit sur n'importe quelle plateforme, quoi. Donc ça, c'est le côté un peu plus cool, parce que VS Code, pour le coup, c'est vraiment l'IDE que j'utilise tout le temps, quoi. Enfin, j'appelle ça un IDE parce que tellement c'est complet, mais c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus light, et tu peux faire du C-Sharp comme tu peux faire du JavaScript ou n'importe quel langage est pris en charge, et c'est gratuit en plus. Parce que sinon il y avait l'autre option, ce que je disais tout à l'heure, JetBrains avec l'option Rider qui est aussi qui a l'air assez puissant, mais c'est payant. C'est une licence à payer, même pour les individus, donc il n'y a pas forcément de version gratuite de Rider, donc qui a l'air aussi très puissant pour faire du C-Sharp et prendre très bien en charge Unity. On passe à la news suivante, ou tu voulais rajouter des choses dessus?
Non, pour moi c'est bon.
Ok, alors petite news suivante, peut-être pas petite, parce que c'est quand même, pour moi, ça a été, comment dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ça c'est un gros tremblement de terre dans l'écosystème qu'on vit actuellement sur le net. C'est l'Europe qui veut encadrer les activités de tous les géants du net pour renforcer la protection en gros des consommateurs. Alors, on en parlait un petit peu là en off avant d'enregistrer. C'est en gros, l'Europe commence à mettre son nez partout où il y a des choses un peu bizarres, étranges qu'il a laissé passer, et notamment tout ce qui est un peu encadrer les ventes en ligne, lutter contre les contrefaçons, les produits ou services illégaux. Par exemple, je pense à notamment les 800 cartes Pokémon que tu peux acheter à 1 euro, quoi, tu vois. Et ce qui est aussi intéressant pour le côté jeu vidéo, c'est l'interdiction des dark patterns. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme de dark pattern, c'est... Alors, comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas si tu as une explication.
C'est des patterns très sombres.
Ouais, si on traduit.
On ne les voit pas dans le noir. Voilà.
Ouais. Alors c'est des choses des fois qui sont utilisées pas forcément avec une mauvaise intention à la base, mais ça le devient à l'usage parce que on s'est dit parce que souvent en fait ces dark patterns sont c'est des choses qu'on va essayer de pousser qu'on va mettre en place pour pousser l'utilisateur à faire des actions un peu contre sa volonté. Je sais pas si je suis clair. Ouais, je sais pas. Par exemple.
Ça utilise des biais cognitifs, etc. Pour solliciter davantage l'utilisateur, pour ensuite permettre à la personne de rester plus longtemps ou de pousser la personne à la consommation, à l'achat, etc.
Voilà. Par exemple, typiquement, si vous allez sur... je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que c'est Discount, je ne vais quasiment plus, mais si vous allez sur Discount, en gros, ils mettaient plus que 2 articles en stock, ou il y a déjà 8 personnes qui ont déjà acheté ça, ou je ne sais pas. Il y a plein d'informations qui étaient mises un peu en mode alerte, warning.
Attention.
C'est urgent, vite, prenez-le parce que sinon, ça va disparaître, quoi. Et surtout, il y a des filles de pop-up de partout, il fallait forcément cliquer. En plus, quand tu cliquais, tu as l'impression de fermer le pop-up. Alors en fait, c'était pas le bouton fermer, mais c'était le bouton ouvrir. Et alors et toi, tu as l'impression au moment de fermer, parce que comme tu disais, tu as le biais cognitif que bah, le bouton fermé, c'est en haut à droite, et eux, ils l'ont placé ailleurs, ce bouton fermé, et c'était le bouton valider qui était en haut à droite. Du coup, tu appuies dessus sans t'en rendre compte, et tu te retrouves à regarder une pub que tu n'avais pas forcément envie. Enfin bref, tous ces pratiques, là, on parle de site web, hein, mais on retrouve ce genre de dark pattern aussi dans le jeu vidéo. Typiquement, bah, beaucoup de jeux free-to-play ou des jeux mobiles ou même des jeux PC hein, utilisent ce genre de pattern pour un peu inciter le joueur à rester à jouer le plus longtemps possible, à dépenser bah, tous les systèmes un peu de gacha. Hein, t'en parlais justement avant l'émission, toi Aurélien. Je sais pas si tu avais des exemples en tête quand tu parlais de ça. Quand tu me disais ça,
Bah, disons que les gacha games basent beaucoup leur système sur le fait d'avoir un système free-to-play où on te pousse à l'achat. L'achat n'est pas bloquant, mais l'achat est un accélérateur. Et généralement, ils trouvent des raisons, des prétextes, des contextes qui peuvent te pousser à acheter. Un truc tout bête. Moi, je joue à un jeu en ce moment, un gacha qui s'appelle Summoners War Chronicles. Et en fait, dedans, tu as un cadeau dans la boutique gratuit tous les jours.
Ouais.
Et en fait, ce cadeau, il faut que tu ailles dans la boutique, que tu descendes, que tu ailles, c'est au milieu. Et en fait, quand tu arrives sur le truc du milieu, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Ce qui fait que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de cliquer sur le premier,
Sans faire
parce
gaffe, quoi.
qu'instinctivement, je me dis c'est le premier, parce que c'est gratuit. En fait, non, c'est le deuxième. Et du coup, ça peut,
Ouais,
je pense, créer une sorte d'habitude ou créer des biais en
complètement.
disant oh, je peux en prendre un, etc.
Ouais.
Et c'est comme ça. De la même manière que je pense que dans Fortnite, il doit y en avoir aussi pas mal, en fait.
Ah
Mine
mais
de rien,
complètement.
des.
Bah, je pensais beaucoup à Fortnite parce que c'était vraiment, enfin, ça a beaucoup été décrié. On avait même, j'ai eu, enfin, quelques témoignages un peu de gens qui avaient un peu étudié le truc ou qui étaient passés par Epic et qui avaient bossé dessus et qui étaient partis quoi parce que c'était un peu contre justement tous ces décisions un peu liées à des dark patterns pour inciter les joueurs à dépenser plus avec des après c'est tu vois c'est là où encore je vais peut-être prendre un peu contre-pied je veux dire quand tu fais ce genre de jeu en fait en règle générale tout ce qui est un peu free to play tu analyses beaucoup les données quoi t'es très bon t'es scotché aux data pour savoir ce qui marche ce qui marche pas et si tu te fies qu'aux data sans lever ton bout tu vois de prendre du recul et dire ben est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas tu te fies juste aux data et que tu vois que les gens ben ils vont plus acheter parce que ton bouton il est bleu et au lieu d'être vert bah, tu vas le faire. Sauf que pour ta logique de rentabilité, c'est plus intéressant. Par contre, tu peux tomber dans le piège du dark pattern parce que du coup, tu as changé les codes. Et le biais cognitif est là. Et la personne va, sans le savoir, appuyer sur oui, je vais acheter. Et du coup, bon, elle achète ou passe à tu vois, elle reste plus au hook à ton jeu. Et puis, tu analyses tes données aussi sur ces jeux pour que le joueur reste un maximum de temps. Donc, forcément, tu rentres dans ces dérives où tu vas trouver un maximum de moyens pour que le joueur reste le plus longtemps possible, quoi.
Bien sûr.
Et donc là, l'équilibre, se dire, bon, à quel moment tu rentres dans la case dark pattern, à quel moment tu essaies juste de faire en sorte que le joueur reste un maximum de temps, parce que finalement, un jeu vidéo, tu as envie que les gens s'y plaisent et passent du temps, un maximum de temps dans le jeu et qu'ils en aient pour leur argent. Et encore, quand c'est du free to play, même s'ils payent rien, tu vois, ils passent du temps, quoi. Donc,
Bien sûr.
c'est un peu ouais c'est un peu compliqué je pense mais il y a des patterns qui sont assez visibles et sur lesquels moi, tu vois, on peut lutter hein, notamment bah, là, changer les coups de couleur ou des choses un peu tu vois comme je disais bleu enfin des trucs que j'accepte ou je refuse tu vois si je refuse en vert j'accepte en rouge beaucoup de gens qui vont peut-être cliquer sur j'accepte quoi
Oui,
je
oui.
refuse bah, peut-être à l'inverse et tout donc il y a des choses qui peuvent être un peu abusées ou même comme les gacha et tout ça mais il y a des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes je pense à analyser quoi voilà, donc on va voir quand ça rentre en vigueur j'ai pas forcément de date je crois que c'est 2024 hein, mine de rien hein. Donc 2024 l'année prochaine on aura déjà quelques nouvelles règles qui vont tomber de l'Europe donc on verra comment ça va impacter donc les premiers concernés c'est quand même pas les petits développeurs indépendants dans leur coin ou des petits studios ça sera sûrement les plus gros hein, donc les Google les AliExpress les Cdiscount etc quoi qui seront les premiers impactés Et puis après, on verra comment ça va, l'impact sera sur les autres développeurs. Mais c'est pas plus mal, en tout cas, au moins ça va redonner un peu, ça va faire un peu de ménage.
Ah bah bien sûr.
Il y en avait trop.
Et quand
Moi,
c'est trop, c'est trop.
mais ouais, tu vois, ces 10 secondes, c'était devenu impossible à naviguer hein, avec tous les trucs partout. Quand ils sont un peu calmés, hein, la dernière fois où je suis passé, je pense qu'ils avaient enlevé quand même pas mal de choses, mais il y avait vraiment de partout, quoi. Tu vois, c'était les attentions, la 5 qui regarde ton truc, etc. C'était assez horrible, je trouvais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. News suivante. On passe. Donc, ça fait un petit moment que j'avais pas traité un peu des bundles sur Humble Bundle. Et là, en quelques jours, il y a deux bundles hyper intéressants sur la programmation, le jeu vidéo. Donc là, ça touche les deux moteurs. Hein, et le moteur Unity, un bundle vraiment dédié à Unity qui s'appelle Learn Unity Game Development Bundle 2023. Donc, c'est vraiment une actualisation du bundle pour 2023 avec plein de cours. C'est un bundle avec des cours qui sont dispensés sur la chaîne, mais oui, c'est la chaîne ou le site gamedev.tv qui est vraiment excellent. J'ai déjà acheté des cours chez eux, c'est vraiment top. Il y a plein de ressources. J'ai appris même des cours de Blender et tout dessus. C'est hyper bien expliqué, c'est très bien fait. Donc là, c'est vraiment orienté Unity, C Sharp pour faire. Il y a même un cours sur le game feel, du visual scripting. Il y a aussi des tilesets de donjons, des accessoires. Il y a aussi des assets 3D dedans. Il n'y a pas que des cours. Voilà, il y a des jeux 2D, jeux 3D, du multiplayer, etc. Et l'autre bundle, c'est plus orienté Unreal Engine pour le coup. Et là, cette fois-ci, c'est pas des cours, des tutoriels vidéo, mais là, c'est des tutoriels. C'est pas des tutoriels, c'est des e-books de Unreal Engine. Donc, c'est du game programming C++ et Unreal qui est fait par Pact. Donc, en gros, vous avez plein de choses sur ces e-books, ces livres numériques que vous pouvez télécharger pour apprendre le C++ avec aussi du blueprint pour Unreal Engine, pour tout vraiment tout tourne autour de Unreal Engine et du C++. Donc il y a des choses qui sont pas forcément directement orientées Unreal Engine, c'est du C++ pur, mais si vous voulez vous y mettre, ça peut être aussi des bons guides, c'est pas très cher, ça peut permettre de vous onboarder, enfin de vraiment vous familiariser avec le C++ et peut-être plus pousser plus loin à l'utiliser sur Unreal Engine si vous voulez quoi. Je ne sais même pas poser la question, toi t'es plus quoi Unity, Unreal du coup
En vrai, moi, peu importe. Pour moi, ça dépend juste de ce qu'on a besoin de faire. En soi, les deux sont viables. Les deux ont des
Mais
forces et des faiblesses assez différentes.
la plupart de tes projets, toi ça tourne autour de quoi tu
Moite, moite. En vrai, il y a très, très peu. J'ai beaucoup d'Unity, beaucoup d'Unreal. Mais après, tu vois, sur de la VR, ça va plutôt être du Unreal en général.
D'accord, ok.
Très souvent.
Ouais.
Après, sinon, par exemple, Don't Forget Me, sur lequel j'ai bossé, il était sur Unity. Là en ce moment, je bosse sur un jeu Unity et un jeu Unreal, tu vois. Donc vraiment,
Allez, c'était les deux, quoi.
c'est ouais, non, vraiment,
Ok.
j'en ai pas un plus qu'un autre hein, pour le coup.
Parce que moi, tu vois, j'ai jamais fait de prod Unreal Engine, donc je connais pas trop ce moteur. Enfin, j'en ai fait un peu en passe-temps, quoi. Mais tu vois, j'ai jamais sorti un truc en mode pro avec Unreal Engine. Mais le moteur est assez. Tu vois, j'aime bien un peu la philosophie, est un peu différente et tout. Mais je trouve ça bien. Mais c'est vrai que pour la plupart du besoin, je fais beaucoup d'Unity. Donc c'est vrai que j'ai pas jamais trop touché, encore moins en C++. Donc, mais tu vois, je pense que là, c'est intéressant quand même ces bundles. Après, c'est vrai que j'ai plus tendance à préférer plus des tutos vidéo. Les e-books, j'ai un peu plus du mal. Donc, je pense pas que tu vois,
Comprends.
j'irais sur des books, acheter des e-books, même si ça a l'air hyper complet, il y a vraiment beaucoup de livres et tout ça, mais j'aurais vraiment du mal à me mettre et à me focus dessus en disant là, je vais suivre des guides des patterns de programmation en C++, j'aurais vraiment du mal. Mais par contre, les vidéos, là, comme je disais, c'est quelque chose qui est peut-être plus adapté. Donc, je pencherais plus tu vois, sur ça. Et puis surtout, vu que je travaille avec Unity, c'est toujours intéressant. Là, notamment, il y a un truc qui me plaît bien, c'est un des cours qui s'appelle Unity Game Feel Course, qui est. Qui a, qui,
pour la première fois, je crois, sur un Humble Bundle. Parce qu'il y a MDF.TV, ont l'habitude de faire des bundles hein, sur Humble Bundle. Et là, c'est la première fois qu'ils le font. Et c'est pour vraiment sur l'aspect game feel du jeu. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper critique sur lequel tu vois, on est encore sur le sujet, sur nos projets, sur nos prods. Et ça serait pas mal de voir comment eux ils l'abordent. Et souvent, c'est vraiment des contenus de qualité. Donc, peut-être aller faire un tour là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça, je pense qu'on a couvert un peu toutes les news là pour cette semaine. Aurélien, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. C'est pas, ouais. On a fait bien le tour. Donc, c'est, bon, ouais. Ouais, c'est pas mal. On a bien aussi fait presque une heure d'émission. Écoute, on va passer à la section horoscope. Si je sais pas ce que tu fais en dehors de ton boulot et qu'est-ce qui t'occupe, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais recommander?
Persona 3.
Persona 3. tu joues à Persona 3 sur quoi? Sur
le Game Pass, parce qu'en gros, j'ai jamais fait de Persona de ma vie jusque-là. Et je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Et comme je suis un mec un peu psychorigide, je n'ai pas commencé par le meilleur selon les gens. Je vais commencer par le chronologique, le plus accessible, ouais. Donc le 3. Et en plus, il y a un remake qui va arriver. Et je m'étais dit, ouais, mais voilà, je vais peut-être pas me mettre dedans parce qu'il va y avoir le remake. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien fait les choses parce que le remake sera vraiment très différent du jeu d'origine. C'est-à-dire que le déroulement ne sera pas le même, les relations avec les personnages ne seront pas les mêmes. Sachant que de base, dans le jeu de base, enfin dans la version que je joue portable, il y a déjà le choix entre homme et femme. Et en fonction du sexe du personnage, tu n'as pas les mêmes relations sociables disponibles. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais en plus, dans le remake, il y aura les deux, et les deux n'ont pas les mêmes persos accessibles. Donc c'est vraiment une autre expérience a priori.
D'accord.
Coup, je suis en mode, bon, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que là, je joue à un jeu. Je vais pouvoir rejouer globalement le même jeu, mais avec des règles différentes et avec des choses qui vont être différentes. Et du coup, je vais quand même être surpris. C'est un peu l'effet, quand ils ont fait le remake de Resident Evil 1, où globalement, c'est le même jeu, mais il y a des surprises qui font que ce n'est pas le même jeu. Et du coup, t'es quand même surpris, t'es en mode « Ah, ça c'est marrant, ça c'est différent, ah ça c'est intéressant. » Mais ouais, globalement, Persona 3, je recommande, c'est intéressant, il est gratuit dans le Game Pass, donc pour ceux qui l'ont, toujours très cool. Et il est pas si long que ça. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien farmer et avoir 10 niveaux d'avance, ça va être un peu plus long que ça. Mais globalement, le jeu se déroule assez facilement. On peut s'arrêter assez facilement, ça c'est aussi un point intéressant. C'est qu'on peut s'arrêter assez facilement en plein milieu de quelque chose, c'est pas si bloquant que ça. On n'est pas contraint par des heures de cinématiques à la suite. Donc c'est toujours sympa et les musiques sont vraiment très bien.
D'accord.
Et bien, okay. C'est toujours un truc pour moi de très important, les musiques et l'ambiance sonore. Et là, c'est vrai que la musique, l'univers sonore de manière générale, elle est très cool. Et le jeu est bonne vibe. Le jeu est vraiment très bonne vibe.
Ok, bah c'est cool. Écoute, je t'avoue, j'ai jamais fait de Persona. Honte à moi, mais je le vois souvent passer. À chaque fois, je me dis, ah, voilà. Mais du coup, moi, je m'étais noté des trucs là, tu vois, moi, pour ma section horoscope. Hein. Je sais pas si t'avais fini, tu voulais rajouter quelque chose, toi, de ton côté?
Non.
Et du coup, de mon côté, tu vois, j'ai ressorti ma Vita, ma PS Vita. Et c'est un peu marrant, enfin c'est marrant, je sais pas, parce qu'en fait il y a beaucoup le côté un peu rétro et tout. Bon, tu vois, Sony, ils ont un peu laissé tomber la PS Vita, là, il y a plus de support. Je crois que tu peux même plus trop accéder à la PS Store pour acheter des nouveaux trucs et tout, en gros. Enfin, je crois que tu peux encore acheter, mais je sais même pas si ça marche. Enfin, bon, bref. Mais du coup, en fait, j'avais vu plein de gens qui disent, en fait, t'as plein de jeux indés et tout, super cool. Et je m'en rappelais plus que j'avais des Super Meat Boy, t'avais plein de trucs qui étaient dessus. Donc, j'ai ressorti. Et en fait, c'est vrai que l'écran est vraiment super agréable. Donc, à défaut de pas avoir de Steam Deck, j'ai joué un peu à la PS Vita sur des vieux jeux pour tester. Donc, c'est plutôt cool. Je continue toujours aussi le rétro podcasting qui n'en finit pas. Donc je réécoute les vieux épisodes de podcast, tu vois, de ce que l'on s'en joue, des choses comme ça. Donc je suis en 2015 là, tu vois, après Charlie Hebdo. Donc c'était assez voilà. C'était un peu c'est une passage, un passage un peu dur, donc on voit un peu l'évolution aussi des techs et l'impact que peut y avoir sur les sujets aussi qui sont traités sur les podcasts et comment les gens bah, les mœurs et tout ça qui évolue aussi sur la vision de la techno, comment on peut bah, toutes les questions de sécurité etc. qui deviennent un peu plus présents ou qui n'était pas forcément abordé avant et tout ça. Donc ça me donne un peu de vision sur aussi la perception de comment les choses ont évolué. Donc voilà, j'aime bien. Donc voilà, je continue à faire ça. Et puis souvent, je suis dans un programme de start-up aussi. Donc je suis overbooké. C'est pour ça que l'émission la sort sûrement un peu tard dans la semaine. Mais c'est un peu ça, là, tu vois. Donc je fais rien d'autre. Je ne fais pas d'autre chose. Je lis pas, je regarde pas, je joue pas. Donc voilà, je fais absolument rien d'autre que ça. Donc mais c'est super intéressant. Donc j'aurai l'occasion peut-être de partager des choses plus intéressantes peut-être la semaine prochaine. On verra si c'est un peu plus calme. Bah écoute, je te remercie Aurélien. Là, on va conclure un peu, un peu la partie conclusion. On va, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, globalement, dans la face un peu publique, ce sera plutôt sur ma chaîne YouTube. Donc
Ouais,
là, on va reprendre
c'est
les
quoi le nom?
vidéos.
Le
Aurélien
nom de
Montero,
Aurélien Montero,
c'est
ok.
mon nom et mon prénom. Très
D'accord.
simple, très lisible, très facile à retenir.
Ok, on mettra quand même le lien dans nos notes de l'émission au cas où pour les
Oui.
gens qui ne savent pas écrire Aurélien ni Montero. Il y a peut-être
Et
des gens.
après, globalement, voilà, au-delà de ça, après, sinon, c'est plutôt sur mon Discord privé qui est accessible normalement. Il y a. Je sais pas si on laissera un lien ou sinon
Ouais.
dans les vidéos, dans les titres de mes chaînes, de mes vidéos YouTube en général, il y en a. C'est un Discord
Moi, je
sur lequel
mettrai un
j'anime
lien,
notamment.
ouais.
Voilà, c'est là où
D'accord.
j'anime notamment un podcast. On a une petite communauté de gens qui sont intéressés dans le sujet de l'audio et du coup, c'est plutôt bonne ambiance. Et voilà quoi, globalement.
D'accord. Ok, et c'est sur Discord, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est un podcast hebdo qui sort toutes les semaines sur Discord. Parce que je trouve que la plateforme est plutôt sympa et après ça permet d'avoir des petites
Ok.
interactions, de rebondir sur le sujet. C'est un peu plus convivial, on va dire.
Ok. Et non, t'as pas de Twitter ou
Si,
non, t'as
si,
pas de nom, mais
après,
t'étais
je
pas.
suis sur tous les réseaux. Moi, si tu tapes Aurélien Montero,
D'accord.
je suis sur tous les
Mais
réseaux, Twitter,
essentiellement, c'est ta chaîne
Instagram.
YouTube. Ok, c'est
Ouais,
essentiellement ta chaîne
c'est
YouTube et Discord,
le
quoi.
cœur dur, en fait.
Ok, super. Bah, écoute, je mettrai les liens de l'émission. Pour le podcast L'écologie du jeu, donc vous pouvez nous retrouver partout, hein, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Comme je le disais en intro. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, hein, maintenant qui s'appelle x.com, sur at coulisses du jeu, coulisses au pluriel. On a aussi la chaîne YouTube, hein, coulisses du jeu. Et on a ouvert un Discord. Donc maintenant, vous pouvez rejoindre le Discord aussi du podcast Les coulisses du jeu. Je mettrai le lien en note de l'émission si vous voulez rejoindre, commenter. Bon, c'est vraiment fait un peu à l'arrache là. Il n'y avait pas hyper bien fait le Discord, mais j'ai essayé quand même de mettre le lien si les gens veulent discuter, partager un peu sur la partie game dev. Avec grand plaisir. Donc voilà. Bah, écoutez, je te remercie encore Aurélien pour le temps d'être intervenu. On espère qu'on pourra renouveler un peu cette expérience à l'avenir. C'était
Oh
vraiment
bah avec
chouette.
plaisir, hein. Avec
Et
plaisir.
bah, merci bien et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!